Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise. Sur Radio Immo.
Eh bien bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous toujours ici au MIPIM à Cannes. Édition 2022, nous sommes le 15 mars, on est ravis. Et voilà, il y a quand même pas mal de monde qui vient ici sur notre plateau de Radio Immo. On enchaîne avec nos programmes, avec la présence de quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Immo, bien évidemment. C'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, ou plutôt l'empêcheur de penser en rond, plus exactement. Avec un franc-parler, des idées, originales, innovantes. En tout cas, de vraies convictions. Ça, on peut le dire les choses comme ça. Il est présent sur notre plateau. Je suis ravi d'accueillir Emmanuel François. Comment ça va?
Très bien. Très heureux d'être ici. Voilà.
Emmanuel, fondateur du collectif SBA, Smart Building Alliance, et du fonds MAGE.
Exact. Oui.
Voilà. Alors, fonds MAGE, parce que c'est un fonds de dotation. Hein,
exact.
Le fonds MAGE. Juste pour qu'on recale bien. SBA, l'idée, SBA, c'était quoi? Un collectif d'industriels?
Non, un collectif d'acteurs du bâtiment de la ville pour repenser le bâtiment et la ville autour de deux enjeux, le numérique et l'environnement.
Numérique et environnement, et aujourd'hui, c'est 500 adhérents.
500 adhérents, voilà. En France. Maintenant, 100 adhérents en Italie, puisqu'on a lancé la SBA Italie en début d'année dernière. Et puis, bientôt, d'autres pays.
Voilà, ça se développe. Alors surtout, Emmanuel, la particularité que vous avez, c'est que vous avez à la fois des idées dans lesquelles on pourrait vous dire lanceur d'alerte, dans une certaine mesure, oui.
Sur l'évolution, oui. Là.
Sur l'évolution à la fois des structures de fonctionnement des sociétés modernes, notamment sur l'économie, sur l'énergie, sur les ressources. Je me rappelle la première interview qu'on a fait ensemble, où je fais simple. Et vous me disiez, alors c'était un peu flippant au départ quand même, hein. Vous me disiez, bon bah écoutez, c'est simple, on a à peu près 10 ans pour se retourner, la réversibilité c'est 10 ans, si on agit tout de suite, voilà. Mmh. Et vous aviez d'ailleurs, je me rappelle, à l'époque produit une bande dessinée qui retraçait un petit peu entre ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne faut pas faire.
J'ai là d'ailleurs.
Et vous l'avez toujours, d'ailleurs on va la montrer à la caméra. Aujourd'hui, voilà, il s'est passé 5 ans depuis notre première rencontre.
Surtout, les moutons qui se précipitent dans
absolument.
Dans le...
Alors, je vais le remettre, voilà, je vais le montrer à la caméra. Pour en parler avec nos auditeurs, voilà, ici, voilà, c'est... Alors, on va prendre Emmanuel François et Karine Borras, 1 an pour comprendre et 10 ans pour agir. Voilà, sur la page de garde, on a prendre sa destinée en main et devenir un visionnaire. Alors, j'aime beaucoup l'image entre... je trouve ça génial. Alors, je vais faire un peu quand même le pitch. Comme ça, ça va nous donner l'introduction, vous allez voir. Vous allez passer un bon moment avec Emmanuel, vous allez voir. Notre société a atteint ses limites. Nous sommes passés de 2 à 8 milliards d'individus en un siècle. Sans faire évoluer fondamentalement nos modes de vie, les recettes d'hier, soumises au court terme du politique et de l'économique, ne fonctionnent plus, s'attaquant trop souvent aux conséquences plutôt qu'aux causes. Les enjeux planétaires sont économiques, environnementaux et sociaux. Le numérique bouscule nos repères de civilisation. Et pourtant, bien utilisé, avec une vision globale et holistique, il est une opportunité pour repenser nos modèles à 180 degrés. Les multiples signes de défaillance annoncent des désordres majeurs. C'est énorme d'avoir écrit ça.
C'était il y a 4 ans.
Je vais reprendre la phrase. Écoutez bien. Hein. Les multiples signes de défaillance à tous les niveaux, donc annoncent des désordres majeurs. C'est presque prophétique. C'est le moment d'agir, alors là c'est vraiment le
c'est
cas,
plus que maintenant.
Et de devenir responsable pour prendre notre destinée en main et de nous associer tous, citoyens, politiques et entreprises, à ce grand défi. Franchement, ça me fait penser au livre d'Adler quand il parlait il y a 10 ans d'une pandémie 10 ans avant. Je trouve que ça remarquable. Qu'est-ce qui se passe exactement si on fait le pitch aujourd'hui?
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, ce que depuis... on va dire presque 10 ans, j'ai une vision du bâtiment, de la ville, de la société. Et les gens me disent, Emmanuel, tu as une vision qui est sans doute géniale, mais tu seras mort quand ça se passera, et encore. Et d'un seul coup, il y a eu le Covid. Et là, je me suis dit, mais attends, une partie de ce dont j'ai rêvé est en train de se réaliser. Les gens ne travaillent plus pareil, ne soignent plus pareil, ne se logent plus pareil. ne vont plus se mouvoir pareillement. Mmh. Et en fait, le numérique est rentré dans notre société de manière précipitée. Et maintenant, fait partie intégrante de notre société. Mais il faut aller plus loin. Parce qu'il est rentré dans notre société, mais on n'a pas bougé. Les bâtiments restent rigides, alors que nous, nos usages ont changé. Donc, le costume ne nous va plus. Et notre mode de gouvernance, la gouvernance de notre société n'a pas changé non plus. On voit aujourd'hui, il n'y a pas de débat à la présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus personne ne sait quoi dire. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément une vraie vision de la société à l'heure du numérique. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Et malheureusement, ça se précipite. Ça se précipite parce qu'en fait, on est en train de vivre une rupture de société que j'appelle civilisationnelle. Et on est dedans.
Quand vous dites civilisationnelle,
on est dans la civilisation de l'écrit.
Est-ce qu'on vit une mutation anthropologique ?
Anthropologique, sans doute aussi, parce que quelque part.
Mais sociologique, sûrement.
Mais sociologique, sûrement. Anthropologique, vraisemblablement, parce que forcément, le fait de vivre différemment, de penser différemment.
Ok, allons au bout du. Alors, c'est vrai que ce n'est pas hyper réjouissant sur le principe, mais on va aller au bout du modèle. Est-ce que ça veut dire. Parce que moi, quand je vous écoute, je me dis, c'est drôle. Je vois constat 1, la démographie, constat 2, les inégalités de patrimoine entre les générations, la démographie et les flux migratoires, c'est incroyable hein, d'avoir écrit ça. C'est fou. Non, mais quand on voit aujourd'hui, les idées pour combiner une énergie décentralisée, les idées pour l'enjeu démographique, le dérèglement climatique, les conséquences sur la santé et le dérèglement climatique, les punitions, la pollution pardon, et les dégradations dans notre santé, des idées face au dérèglement pour combiner une énergie centralisée et décentralisée. Mais c'est énorme. Est-ce que ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de dire, si on ne réagit pas, ben, on pourrait même imaginer que l'extinction de l'espèce soit envisageable.
Bah, écoutez,
je parle de l'espèce humaine. Hein.
Je viens d'écrire un papier pour l'École des mines, la revue de l'École des mines, et je commence par ça. Je dis qu'il y a 6 défis majeurs qui sont à l'origine de désordres sociaux majeurs, et qu'aujourd'hui, face aux enjeux, les enjeux sont tels qu'on est menacé. L'espèce est menacée. L'espèce même humaine est menacée. Et elle n'est pas menacée à long terme, elle est menacée, je dirais, à moyen terme. Et ce n'est pas que l'enjeu climatique, il ne faut pas croire. C'est également, par exemple, toute la chaîne alimentaire qui est totalement polluée.
Regardez,
et on ne le sait pas aujourd'hui.
6 constats dans votre écrit, c'est intéressant. Démographie, climat, pauvreté, liberté, aménagement du territoire, perte de repères, c'est les 6 items. Parce que oui, mais en fait, c'est logique. Si on parle de dérèglement climatique, forcément... une incidence sur les ressources alimentaires.
Bah, évidemment.
Sur la précarité hydrique, qui est un sujet dont on parle peu.
La précarité hydrique, si je peux faire une parenthèse.
Bien sûr.
Pour moi, c'est l'enjeu de la prochaine décennie. Et malheureusement, mais je suis prêt à parier, cet été va être catastrophique en France, doublement catastrophique. Il suffit d'aller à la montagne, vous verrez, l'enneigement n'a jamais été aussi faible. Le sud de la France est totalement en sécheresse. C'est trop tard. Parce que le temps, que même s'il pleut dans les prochains mois, c'est trop tard. Et globalement, la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est sans doute des rivières qui seront à sec. La conséquence derrière, c'est potentiellement des problèmes énergétiques parce que nos centrales nucléaires ont besoin de l'eau des rivières. Alors déjà, il y en a quelques-unes qui sont en repli. Et puis c'est surtout aussi, et malheureusement... on veut plus de blé parce que l'Ukraine et la Russie représentent 30% de la production mondiale et ça va continuer. Il n'y a plus aucun bateau qui quitte la mer Noire depuis 15 jours. Vous avez des pays qui commencent à être en famine. La FNSEA a demandé aux agriculteurs de planter plus de blé. Mais s'il n'y a pas d'eau...
des pays.
Comment ?
Des pays.
Ah oui, l'Égypte est en... l'Égypte commence à être ils n'ont pas de blé. Ils ne reçoivent plus de blé depuis 15 jours. Et c'est que le blé de l'Ukraine dont ils ont besoin. Donc c'est... Mais c'est pas que l'Égypte. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est que je pense, je me permets de le dire, je pense qu'entre 3 et 6 semaines, le monde aura changé.
Attendez, allez au bout du modèle.
Eh bien, 3 semaines, je pense qu'on ne se rend pas compte.
Vous parlez d'un conflit.
C'est pas un conflit. Aujourd'hui, c'est pas un conflit, mais c'est simplement une évidence. On n'a jamais eu ça dans l'histoire de notre société européenne, un flot migratoire aussi massif et brutal. Parce que des flots, on les a eus.
1,5 million.
Mais ce n'est pas 1 million. c'est pas 1,5 million. Vous voyez, ce matin, c'était 1,5 million d'Ukrainiens de Kiev qui quittent la ville. Il y en avait déjà 3 millions sur les routes. On va avoir 10 millions d'Ukrainiens d'ici 3 à 6 semaines. Et où est-ce qu'ils veulent, ils peuvent aller? Ils vont déferler. Déjà, la Pologne est déstabilisée, la Tchéquie est déstabilisée. L'Allemagne a eu déjà des Syriens. C'est la France. On parle pas que la France, mais la France va être forcément touchée.
Mais c'est quoi la solution? Alors, qu'est-ce qui va se passer?
La solution, c'est pour ça que...
Est-ce qu'il va y avoir une désescalade? Est-ce que le conflit va s'arrêter?
Non, moi, je n'y crois pas, malheureusement. J'espère.
Et qu'est-ce que vous pensez du... Qu'est-ce que vous dites au président Poutine? Qu'est-ce qu'il a en tête?
Je pense...
Est-ce qu'il est fou au point de remettre en... d'aller vers quelque chose qui est complètement fou en tant que tel? Parce que ça peut lui être fatal dans l'économie intérieure de la Russie. C'est quoi la stratégie de Poutine?
Si vous voulez, c'est... Mais, ouais, je ne sais pas si c'est l'endroit pour en parler, mais je pense que cet homme est malade, mais vraiment malade. Il a un cancer, à mon avis. Ça se voit sur son visage. Il a un visage qui ressemble à celui de Brejnev. Donc je pense que cet homme sait... Enfin, je pense qu'il sait qu'il est condamné. Et ce qui peut expliquer ce jusqu'au boutisme. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tous les cas, si ce n'est pas ça...
Dire quoi? Il est prêt à précipiter parce qu'il serait condamné le monde dans... Parce qu'attendez...
Je peux vous dire une chose.
Les Européens vont s'énerver. Parce que... À un moment donné, pour l'instant, on a dit qu'il n'y aurait pas d'assistance armée. Mais à un moment donné, si jamais ça déborde trop, les pactes d'alliance, et notamment au niveau de l'OTAN, vont impliquer le reste de l'Europe, non?
Enfin, je ne suis pas un expert là-dessus, mais je pense qu'effectivement, on est mal parti. Et juste pourquoi je voulais faire un petit...
Et quand vous dites que le monde va changer dans 3 à 6 semaines, ça veut dire quoi?
C'est ce flot migratoire qui va arriver.
Quoi?
Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, une ville comme Lyon, d'un seul coup, on a 50 000 réfugiés, des femmes, des enfants dans la rue. Eh bien, c'est pour ça que ce week-end, j'ai eu une initiative. J'ai frappé aux portes de tout mon voisinage, de tout le quartier. Je l'ai réuni... J'ai réuni 2 fois 60 personnes dans mon quartier, chez moi, en leur disant « il faut qu'on anticipe. Dans 3 semaines, ça sera trop tard. » Eh bien, ce qu'il faut, c'est que dans les 3 semaines qui viennent, chacun s'assigne une responsabilité. Moi, je vais partager avec mon voisin une famille, 3 enfants ou 2 enfants, une femme. Moi, je vais prêter ma maison. Moi, je vais prêter une cuisine. Moi, je m'occuperai des cours de français. Moi, je vais m'occuper de les inscrire à la préfecture. Moi, je vais m'occuper de les inscrire à l'école. Et chacun a une tâche. Il y en a aussi qui sont désignés pour l'assistant psychologique. Parce qu'il va y avoir des cas. Il y en a qui disent, on va se grouper pour donner de l'argent. Il y en a qui disent, on va donner du matériel, des PC pour qu'ils puissent communiquer, de la mobilité. Et si vous voyez ce que je veux dire ici à l'antenne, c'est que si on attend que chaque Français prenne une famille, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Dans beaucoup de cas, c'est nos familles qui vont exploser. Si on mutualise, si on dit, on prend à plusieurs des familles, on se les répartit, on se répartit aussi les tâches, toutes les tâches, que ce soit les repas, la lingerie, et que la collectivité, la commune s'implique dedans, en disant, ben moi, je vais vous mettre à disposition des communs, la salle de sport, la salle de jeu, un réfectoire, les migrants pourront aller à la cantine, etc. Là, on aura résolu. Mais aujourd'hui, on attend. Eh bien, moi, je dis, il ne faut pas attendre. Parce qu'on va subir. C'est sûr. Et ça va être grave. Et donc, il faut aujourd'hui se réunir. J'ai fait un petit tableau Excel sur Google Drive. Eh bien, sachez que déjà, ma commune l'a pris. Elle en parle à la préfecture de Lyon demain, de la Rhône-Alpes. Mais déjà, 3 villes environnantes, Écully, Caluire, Limonest, s'en inspire. Et ce que j'espère, plusieurs personnes m'ont dit, mais attends Emmanuel, ce que tu as fait, c'est génial. Enfin, il faudrait que ça soit dupliqué à l'échelle du territoire.
Et vous-même,
dans tous les quartiers.
Vous allez accueillir des personnes chez vous.
Alors moi, personnellement, effectivement, je me suis engagé à prendre au moins 3 personnes. Mais comme j'ai... Que je vais loger et nourrir. Mais comme je ne veux pas imposer ça non plus à ma famille, 365 jours par an, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Votre voisin va...
Exactement.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, elle va venir 15 jours chez vous et 15 jours chez eux?
Oui.
Ils vont quoi, traverser le portail pour aller loger?
Ils traversent le portail, donc ce n'est pas grand-chose. Et puis, on pourra mutualiser, mais ça permettra d'avoir un peu de calme de temps en temps. Ou le week-end, vous voyez, parce que je veux dire...
C'est terrible.
Et c'est génial.
Mais ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est aurions-nous pensé à un moment donné, vous et moi, se poser la question d'accueillir des réfugiés chez nous, dans un monde aussi dérangé. Moi, j'ai du mal à comprendre, mais j'aimerais bien avoir votre analyse. J'ai du mal à comprendre les motivations de cet homme. Il sait qu'il est en train de provoquer quelque chose qui peut être irréversible.
Oui, mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les défis et les désordres sociaux, eh bien, en fait, il sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est arrivé, moi, j'appelle ça une impasse. Alors, l'impasse, depuis longtemps, je me dis qu'on est à une impasse, mais
vous craignez
il faut changer dans la douceur.
Est-ce que vous
craignez... Et lui, il veut changer dans la douleur.
Est-ce que vous craignez un conflit ? Est-ce qu'on pourrait envisager un conflit armé ?
Ah ben, moi,
avec la puissance de tir russe.
Sylvain, moi, je pense qu'on est à deux doigts, parce que quand on voit déjà, ne serait-ce que toute l'armée, les armées qui sont dans la mer Noire, mais c'est pas possible que ça reste ainsi pendant
autrement dit,
sans débordement.
Autrement dit, par le jeu des alliances, un peu c'est ce qui s'est passé il y a 80 ans, on risque un troisième conflit mondial ?
Moi, je pense qu'on n'est pas loin. Mais je pense qu'on n'est pas loin, mais c'est...
Non,
je
mais
pas
donnez-moi
être...
votre avis.
Oui, moi, je pense qu'on est, on y est, on y est.
On est à l'aube d'un conflit mondial.
Je pense qu'on y est. Moi, j'ai dit ce matin à quelqu'un de Nice que j'aime bien, je lui ai dit, écoute, déjà, la dernière fois qu'on s'était vu, c'est avant le Covid, on s'est revu 2 ans après. Et donc là, je pense que je ne te reverrai pas avant un longtemps.
Ah oui.
Ah oui. J'espère me tromper. Eh bien, mais écoutez, il faut être prêt.
Eh bien, j'espère que vous vous trompez, Emmanuel François. Mais quand on voit ce que vous écriviez déjà il y a quelques années, effectivement, ça fait réfléchir.
Oui, voilà. Mais il faut être prêt. Puis de toute façon, il faut agir. Et aujourd'hui, il faut repenser complètement nos modèles. Et ne serait-ce qu'à l'échelle de Paris, par exemple, 50% des logements sont inhabités ou sont occupés occasionnellement par une personne ou seulement par une personne. Eh bien, ce n'est pas possible. Face à ces flux migratoires, est clair qu'il faut changer
en fait,
tout de suite.
Il va surtout falloir partager.
Et il faut partager.
Parce que, non, mais voilà.
Il faut aller vers une économie de partage.
C'est le partage. C'est l'économie de partage dont on...
C'est une économie de partage.
Merci Emmanuel François, c'est toujours un plaisir. Président de SBA, on va bien sûr vous suivre régulièrement. Et on va espérer que, bien évidemment, beaucoup de choses que vous avez dites, eh ben, on espère que ça ne se produira pas.
Voilà. J'espère aussi, merci.
Merci.
Bye.
À très vite.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier, du 15 au 18 mars 2022 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonize sur Radio Immo.